19h de l'après-midi.
Les 19h.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Nous n'allons pas avoir dans toutes les villes françaises plusieurs radios, plusieurs télévisions. C'est impossible, ce serait d'ailleurs ruineux. Qu'est-ce que ça serait si nous avions plusieurs centaines de télévisions ou de radios en France?
François Mitterrand est élu président de la République.
Le tournant économique du septennat de François Mitterrand a déjà eu lieu avec la mise en œuvre de la politique de rigueur depuis juin 82.
C'est que, en tant que président du RPR, je ne me suis jamais occupé des problèmes de financement. Je ne peux pas y croire.
Descends, on peut le dire. Descends, on peut. Si tu crois que c'est en insultant que tu vas régler le problème des pêcheurs, viens.
Radio Garage 1984, deuxième épisode. Du gauchisme au punk rock. Salut tout le monde, Radio Garage, deuxième épisode de notre série dédiée aux origines de Radio Béton. Bienvenue dans la France de 1984, une France sans ordinateur, sans internet, sans portable. Une France qui découvre les radios libres, une France avec 5 ou 6 chaînes de télé. Une France où pour le petit blanc moyen, la musique de jeunes, c'est ce qu'on appelle le rock et ses déclinaisons. Une France qui continue à découvrir la crise et qui n'a encore rien vu. Et c'est dans cette France provinciale qu'une bande de jeunes se retrouve dans le garage de Véronique et Pascal Robert pour faire du rock à la radio. Rock à la radio à la façon de Bijou en 1981, année de l'autorisation des radios libres à la suite de l'élection de François Mitterrand. Mais avant cela, il y a en Touraine Radio Transistour, radio pirate créée en 1978 par des gauchistes. Pour caricaturer, Transistour est tenu par des gauchos lénifiants qui écoutent du jazz et qui se sentent débordés par une bande de rockers irrévérencieux. Nous allons revenir sur les propos de Pascal, un acteur de cette époque-là, acteur toujours actif dans la vie de Radio Béton. Sur l'édition 2010 de Quart de Tour, Pascal servait dans un bar du festival habillé en curé, mais c'était pas du vin de messe. Quoi qu'il en soit, pour Pascal, la fin de Transistour est l'un des symboles d'un changement d'époque. Les 70s aux 80s.
La fin de Transistour, ça a été un petit peu la fin du gauchisme.
La Transistour, ça a été...
Transistour a été monté en 78, j'y étais. Non, en 78, c'était le mouvement des radios libres. Donc effectivement, il y a eu des gens qui sont regroupés, beaucoup effectivement d'anciens gauchistes, mais qui venaient plutôt des Mao ou choses comme ça.
Alain Gachet, dit tonton au piano.
Donc la fin du gauchisme.
Transistor a été monté donc par une bande de gens, beaucoup d'anciens gauchistes, quelques autres qui venaient plutôt des milieux un peu plus libertaires, notamment moi j'avais travaillé avant sur un petit mensuel qui existait en Touraine qui s'appelait le Petit Rouge de Touraine, qu'on avait monté en 76, à la suite un petit peu de Libé et choses comme ça quoi. Et donc Transistour, on a vécu pendant 3 ans sous la prohibition, c'est-à-dire avec des émissions clandestines, on se faisait brouiller, on émettait en voiture, enfin bon c'était assez rigolo.
Donc la légende urbaine des fous furieux qui avait un émetteur ambulant dans une voiture.
On était en général dans un parking qui était sur Gramont par là, parce qu'il faut être en hauteur quand même pour émettre. C'est vrai qu'à l'époque, la bande FM était beaucoup moins polluée que maintenant. Il y avait de la place. C'est vrai qu'avec un petit émetteur de merde qui faisait 10 watts, on émettait jusqu'à Mont-Louis. On émettait donc en voiture, c'est-à-dire qu'on enregistrait les émissions, parfois publiquement, et ensuite on passait les émissions, c'était une demi-heure ou une heure par semaine.
Et comment vous avertissiez les auditeurs? Il y avait des fly, non? Pour dire tel jour, à telle heure, sur telle fréquence?
Oui, oui, c'était un rendez-vous régulier. Il me semble que c'était le vendredi à 19h. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui écoutaient. De toute façon, on était complètement brouillés. On avait un émetteur de merde qui émettait sur 3 ou 4 fréquences à la fois. Et je me demande d'ailleurs si le vendredi soir, les avions pouvaient atterrir à l'aéroport, parce qu'il paraît qu'on est gueulés de partout. Et on arrivait même à voir 3 brouilleurs contre nous sur 3 fréquences différentes le soir. Dans notre système, c'était très simple. C'est-à-dire qu'on avait un petit couple gentil, propre sur eux, avec une belle voiture, qui eux avaient l'émetteur dans la voiture avec une antenne d'autoradio classique sur le toit, quoi. Et autour, y avait 3-4 bagnoles avec des chevelus, des bagnoles, des 403, des 4L avec des autocollants Larzac et antinucléaires partout. Et dès qu'on voyait les flics, toutes les bagnoles et les chevelus se barraient en courant. Et le petit couple gentil dans la belle voiture coupait juste l'émetteur. On s'est fait contrôler plusieurs fois, mais on ne s'est jamais fait piquer l'émetteur.
Moi, je voulais juste ajouter, et là, c'est un scoop que je vous réserve depuis pas mal d'années. Alors, je tairai mes sources, mais j'ai un relevé d'écoute de Radio Transistour par un bon citoyen qui envoyait à la police son rapport d'écoute de Radio Transistour dans les années 79-80. Ils ont émis de telle heure à telle heure, ils ont dit ça, machin, et bon.
Alors, ils se disaient des choses vraiment épouvantables sur cette antenne?
Ah, sans doute, je sais pas, je l'écoutais pas.
Dans le micro, je rigole, les fous ont la parole.
C'était un organe militant, quoi. C'est-à-dire on faisait parler les gens qui faisaient quelque chose au niveau de l'extrême gauche. J'ai même réussi à faire une émission chez moi où il y avait ensemble les gens du NPA et les gens du comité de soutien à Action Directe. Ça avait été très drôle. Mais on avait réussi à les faire débattre ensemble. Mais bon, de toute façon, on était complètement brouillés. On avait même fait une fois une émission, comme on était tellement brouillés, on avait fait une émission où il n'y avait que des crrrr pendant une demi-heure, et ils nous ont quand même brouillés.
Tonton. Oui, moi, j'étais pas là tout au début, j'étais en train de vadrouiller ailleurs, très loin, et je me suis fait raconter quelque temps après, il paraîtrait-il que la première émission a dû durer à peu près 30 secondes, parce que ils avaient tout préparé vachement bien, ils avaient tout branché et tout, ils commencent à émettre, et là, on voit une fumée qui sort du coffre de la voiture, en 3 secondes, ils avaient cramé l'émetteur. C'est vrai que donc la première émission de Radio Transistor a dû durer 10 secondes, quoi.
On a quand même beaucoup changé d'émetteur. Vu qu'à l'époque, il y avait des réseaux d'électroniciens fous qui faisaient des émetteurs. Et, bon, c'était très drôle. Ça a duré donc de 78 à 80. Et puis bon, en 80, libération des ondes par Mitterrand, quoi. C'est-à-dire la gauche au pouvoir, tout ce qui marchait un petit peu au niveau social, on a réussi à l'arracher. Hein. Ça a été le nucléaire, le Larzac et les radios libres. Le reste, comme il n'y avait pas de mouvement social, il ne s'est rien passé. Et donc, explosion sur les ondes, donc Transistour, radio historique. On a donc trouvé un studio rue Lamartine. On a racheté du matériel parce que celui qu'on avait était quand même vraiment très très pourri. Et puis bon, on a émis quasiment toute la journée pendant 3 ans. Quoi. Suite à ça, effectivement, c'est agrégé pas mal de gens qui n'étaient pas du tout du milieu originel de Transistour, qui venaient donc de l'extrême gauche et des milieux plutôt libertaires. Il y avait donc ce qu'on appelait un noyau historique, ce qu'on appelait à l'époque le noyau historique, et tout un tas de gens qui gravitaient autour, qui faisaient des émissions, qui étaient plus branchés sur le rock, sur les nouvelles cultures, et qui en fait n'ont pas du tout été acceptés par ce qu'on appelait le noyau historique, parce que bon, c'est des gens qui étaient très stricts au niveau du discours.
Bon, on n'allait pas croire que tous les gauchistes de l'époque se contentaient de dire la messe. Il y avait aussi quelques allumés qui s'agitaient.
Il y a eu effectivement sur la fin des années 70 un groupe de gens qui était un petit peu plus loin que les autonomes et qui effectivement avait mis une bombe au palais de justice, une bombe donc qui a fait quelques dégâts très limités. Les flics sont effectivement tombés très vite sur les auteurs et bon, ils ont fait quelques années de tôle. Quoi.
Bon, il n'y avait pas de gens de Transistour dedans.
Non, il n'y avait pas de gens de Transistour, on les connaissait, puisque effectivement tout le monde savait qui c'était sur Tours, c'est pour ça que les flics n'ont pas été très loin à chercher. Il y avait des gens qui sont maintenant en béton d'ailleurs. Mais je ne dénoncerai pas.
Toujours à sa place plus de bitume, donc encore moins d'espace vital et nécessaire à l'équilibre de l'homme. Non, personne n'est sinistré, mais c'est tout conséquent de nous dire que la France avance alors qu'elle pense par la répression stoppée naît la délinquance. S'il vous plaît, un peu de bon sens, déco ne régleront pas l'état d'urgence à tous ceux qui m'amènent à me demander mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre notre femme et qu'elle? Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre notre femme et qu'elle? Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre notre femme et qu'elle? Ce sac se fait pour son froid. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre notre femme et qu'elle? Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre notre femme et qu'elle? Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre notre femme et qu'elle? Anti-social. Il est bon qu'on y pense, il est temps que la France daigne prendre conscience de toutes ses offenses. Face de ses hontes, des leçons à bon compte. Quand bien même la coupe est pleine, l'histoire l'enseigne, nos chansons belles. Alors arrêtons de saut, plutôt que cela traîne, on ne traîne. Mais encore plus vaine, une échelle ne pourra s'y virer ce système. Oh non. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre notre femme et qu'elle? Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre notre femme et qu'elle?
Pourquoi les anciens disent qu'on ne rattrape plus? Qu'on ne rattrape plus?
C'est clair!
Qu'on ne rattrape plus!
Bon, c'est clair!
Qu'on ne rattrape plus!
C'est clair!
Qu'on ne rattrape plus!
Quand on avait un truc qui disait
anti-social. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre notre femme et qu'elle? Anti-social. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre notre femme et qu'elle? Anti-social. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre notre femme et qu'elle? Anti-social. Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu et qu'elle? Anti-social.
Antisocial, bootleg de Trust et NTM que l'on doit à Lou et Placido. Trust a sorti l'original d'Antisocial en 1980, soit 2 ans avant la création, dans l'illégalité, de Radio Transistour. Vous allez à présent accueillir Jean-Michel, qui dans les années 80, tenait avec son comparse Philman un magasin de disques qui s'appelait Vinylium, un temple du rock'n'roll. Jean-Mi, il faisait partie de la bande de rockers qui s'était fait virer de Radio Transistour. Après s'être fait virer de Radio Cactus, une autre radio tourangelle. Bref, viré de partout.
Je suis arrivé à Transistour, je fais partie des sales rockers qui sont arrivés et qui ont fait peur à tous ces gauchistes qui avaient une ligne très dure. En fait, nous, on est arrivés avec Pascal et puis Philman. On est arrivés d'une radio qui s'appelait Radio Cactus, où on s'est fait virer parce que Pascal, à l'époque, on ne mettait pas 24 heures sur 24. Et il y avait les fermetures d'antenne le soir. Et sur cette radio, tous les soirs, il y avait une fille qui était là, qui avait juste la voix, en fait, qui disait « Je vous embrasse, dormez bien ». Et le soir, Pascal, après une émission, qui était une émission où il diffusait, comme d'habitude, son émission qui s'appelait « Pirate », et il passait un concert de Foutre, groupe punk de Tours, mais historique, mémorable, pour moi, un des grands groupes de la scène punk française. Et Pascal a fini en disant, au lieu de dire « je vous embrasse », il a dit « je vous encule ». Donc le lendemain matin, Pascal et Véro virés. Donc Jean-Mi et Filmal ont dit bah, « on suit aussi, nous on est virés, parce qu'on ne va pas laisser notre copain comme ça ». C'est comme ça qu'on est arrivé à Transistour. Et donc on arrive à Transistour, ça se passe plutôt bien au début. Parce qu'on amène, je pense, à un espèce de 109. C'est vrai qu'on envahit un peu l'antenne, en fait. C'est peut-être ça ce qui leur a fait peur, c'est qu'avant c'était plus jazz, très comme ça. Mais au début, ça se passe bien. Hein, plutôt très bien, parce qu'il y a les fêtes, on participe, on amène vraiment ça. Mais je crois qu'ils ont flippé un petit peu. Pour moi, là où ils ont eu flippé vraiment, c'est il y a eu une venue de Le Pen à Tours. Donc Le Pen, meeting à la mairie. Nous, on appelait carrément à casser la gueule à Le Pen. Et ils ont flippé, les gauchistes ont flippé. Donc il y a eu manifestation, mais ils n'ont pas déplié la pancarte Radio Transistour. Des gens qui sont là ce soir, que je ne nommerai pas, ont jeté des cailloux sur la mairie, voire fracassé un carreau. Et ça, ça ne leur a pas plu. Et je crois qu'ils ont commencé à flipper là. Pour les activistes, ce n'était pas très fort.
Gauchisme au punk rock, c'est le deuxième épisode de cette série Radio Garage, où revoilà Pascal, qui, fin des années 70, faisait partie de la bande de Radio Transistour.
T'as quel âge toi, Pascal, en 81 ?
En 81, bon, je dois avoir dans les...
10 minutes de pause. On peut passer un peu de publicité.
Dans les 25 ans, peut-être, oui.
Toi, Claude ? Moi, j'avais 25 ans en 80.
T'étais déjà tonton, toi, en 80 ?
Oui, on m'appelait pas encore vieillard quand j'arrivais dans les studios de Radio Béton, mais j'avais 29 ans. Et alors, c'était marrant parce que les tout débuts de Radio Transistour, j'étais pas là. Je faisais partie de cette petite bande qui avait fait le journal Le Petit Rouge de Touraine. J'étais parti bourlinguer un peu à l'étranger. Et quand je suis revenu, c'était juste après 81, sur l'élection de Mitterrand, j'étais dans un petit patelin des Deux-Sèvres. Et j'ai dû revenir à Tours, je pense, quelques mois après. Bon, j'avais laissé quelque chose qui était complètement en gestation. Et puis bon, là j'arrive, je retrouve quelque chose de bien installé, qui avait l'air de tourner. Et alors c'est marrant parce que j'étais déjà le cul entre deux chaises, avec un espèce de statut de grand ancien déjà.
Le cul entre deux chaises entre les gauchistes et les rockers ?
Complètement, parce qu'il m'avait un peu catalogué en disant « tiens, c'est le grand ancien qui revient, donc il va être plutôt du côté des militants ». Moi très vite, j'ai pas pu supporter la bande de soi-disant militants, parce qu'il faut savoir que qu'est-ce que c'est que des militants, on en connaît tous. C'est-à-dire c'est des gens qui ont des idées plein les tripes, qui sont prêts à se battre pour ça. Les gens qui étaient à la tête de Radio Transistour à l'époque, c'était pas des militants. C'était des gens qui avaient des plans de carrière, c'était des petits cons d'arrivistes. Ils sont d'ailleurs arrivés, on peut les citer, il y en a un, je m'en fous qu'il me fasse un procès, c'est un enculé. Il s'appelle Jean-Yves Perrin, il a France 2 maintenant. Donc il est arrivé. Ces gens-là, ils avaient envie de faire des choses pour leur petit destin à eux. Le destin collectif, à la limite, ça passait en second.
Il y en a qui n'est pas d'accord là.
Non, j'étais pas dans l'histoire, mais c'est... moi c'est juste
Jean-Michel.
De l'extérieur, je suis pas aussi radical qu'Alain là-dessus. J'avais pas l'impression qu'ils avaient un plan de carrière à l'époque.
La rupture s'est faite un peu en 83-84, où ils ont suivi un petit peu l'exemple de Libé, avec le professionnalisme de Libé par Julie et choses comme ça. Ils considéraient qu'ils avaient grandi, que leurs amusements politiques de leur jeunesse étaient finis et qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose. Et ils se sont dit qu'effectivement, les médias et la radio, ça pouvait être une chose intéressante pour eux.
Bonsoir à tous. On réunit ce soir sur le plateau d'Apostrophe en direct trois intellectuels et un chef d'entreprise. En mai 68, ils avaient 20 ans. Et en épigraphe de cette émission, je voudrais vous citer une publicité que vous avez probablement lue dans vos quotidiens. Cette publicité dit ceci. En mai 68, on a refait le monde. En mai 86, on refait la cuisine.
Il y a eu effectivement cette tension donc, entre les nouveaux qui faisaient des choses, qui étaient passionnés, et eux qui étaient uniquement dans un discours gauchiste mais qui ne représenteraient plus rien. Et je repars effectivement sur ce qu'a dit Jean-Mi, sur le meeting de Le Pen, parce que je pense que ça a été un déclencheur, c'est que eux qui se prenaient donc pour la conscience politique ont été en fait surpris par tous ces gens qui méprisaient complètement au niveau politique. Et je me rappelle que pendant une semaine, on a fait une radio anti-Le Pen, méchante, et ça les a surpris.
Tillman et Tonton à l'antenne tous les après-midi. Moi, je me rappelle que je travaillais, j'étais un peu indépendant, donc je revenais, moi, je quittais mon boulot pour venir, parce que c'était une super semaine. Et ils appelaient carrément à l'émeute. Hein, tous les deux, avec Tillman, vous étiez à l'antenne tous les après-midi, vous appeliez à l'émeute pour la manif de Le Pen.
Très clairement, oui, oui. Très clairement. Et puis les autres, on ne les a pas vus le soir de la manif.
Ça s'est passé comme j'ai dit, il y avait la banderole pliée, ouais. Mais ils n'ont pas osé déplier la banderole.
À l'époque, le rocker est vachement plus gauchiste que ceux qui sont censés être des gauchistes.
Il est plus dans la réalité.
Ouais, voilà.
Et je pense que c'était ça. Il y a eu aussi tout un tas de choses, et je pense que peut-être les filles en ont parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait le discours gauchiste sur le féminisme, mais par contre, eux, c'était que des mecs. Leur nana était là de temps en temps, mais c'était encore le groupe macho. Comme il y avait avant. Et effectivement, sur les gens nouveaux, il y avait aussi des filles qui prenaient des responsabilités qu'il y avait. Et ça les a mis un petit peu aussi en face de leurs contradictions, quoi.
Parce que là où ils se sont plantés aussi, c'est qu'ils s'attendaient qu'un certain nombre de gens militants, catalogués comme tels, se rangent de leur côté. Tonton parlait tout à l'heure du cul entre deux chaises. Il y avait un certain nombre de gens à la fois militants, mais en même temps rock contre culture, etc., qui ont dit cette espèce de coup d'État, on n'en veut pas, quoi.
Pourquoi vous vous êtes marré là à l'instant? Qu'est-ce que t'as dit, Jean-Michel?
En fait, parce que, à Transistour, il y avait une espèce de, je sais pas, moi j'ai jamais participé, une espèce de tradition où vous faisiez des séminaires. Ça, vous partiez tous le week-end, vous retrouviez.
Oh, une fois, ça.
Une fois. Mais Alain a tiré une bande dessinée qu'il a distribuée allègrement à tous les participants, où on faisait cas de certaines pratiques sexuelles lors de séminaires. Et ça les a vraiment fâchés.
Moi, j'en avais un peu marre de passer mon temps à prendre des leçons de féminisme par des espèces de ploucs, tu sais, qui te donnent des leçons de fierté féministe et tout ça, et qui vont en réunion politique faire des grands discours pendant que Bobonne est à la maison à faire la vaisselle. Et bon, ça me sortait vraiment par les yeux. Et on avait effectivement une espèce de petite gazette interne. On avait un bon pote, Dominique, qui avait des photocopieurs à disposition, c'était très pratique. Donc on avait une petite gazette interne comme ça. Et à un moment, effectivement, j'ai commis une bande dessinée détournée, piquée à fluide glacial d'ailleurs. Et ça leur a pas plu du tout parce que, bon, je mettais d'un côté leur langage technique au niveau de l'organisation de la radio, on veut monter des structures, etc., etc. Et en fait, les BD qui étaient là, c'était des partouzes. Donc, et alors là, ils ont complètement explosé, on s'est fait traiter de tous les noms.
La BD la plus drôle des années 80, pourtant.
Ça doit valoir très cher maintenant, pour peut-être la rééditer, ce serait.
Bravo.
Et maintenant, Pauline Béton vous interprète Oh, les livres de fesses.
La 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 heureux. La 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 heureux. Après 8 tours de quartier, je me suis décidé à entrer. À des sourires aux caissiers. Vu que je suis pas un habitué. Un habitué, un habitué.
Un habitué.
Je veux y être l'auto-journal. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui met vraiment le moral, c'est plutôt les livres de fesses. Les livres de teufs, les livres de fesses.
Oh, les livres de fesses.
Insensiblement, je m'éloigne. Mais des lectures un peu moins sages. Il m'a fallu avoir une bonne poigne pour pas faire trop de rayonnage. Trop de
rayonnage. Oh, le rayonnage.
Un bref coup d'œil circulaire va lui permettre de foivir le spécial gros sein d'enfer avec lequel il va s'enfuir.
Il va fanfan, il va fufuir, ah, oh, il va s'enfuir.
Enfin, j'arrive à la caisse et j'achète le télé 7 jours. Parce qu'avec les livres de fesses, ben, il faut quelque chose pour mettre autour. Pour mettre autour, pour mettre autour.
Ah, oh, pour mettre autour.
Alors, télé 7 jours, 25 centimes, prends 12, 7,50, prends-moi salope. C'est combien, Solange, prends-moi salope
15,20.
visage plastique?
Ah non.
Puis-je pas transparent comme un? Mais en agrippant la barre, les revues me glissent des mains. Au moment où le train démarre, où train d'aider, le train m'amarre.
Oh, le train démarre.
Oh, c'est dégoûtant. Tiens, voilà ce qu'ils font de la France. C'est des gens comme vous, des gros bons.
Non. Ah mais ils sont merdants, les gars. C'est relou, t'as vu les meufs?
Les livres de fesses des VRP, en hommage à la BD que Tonton réalise en 84 pour se moquer des gauchistes sentencieux de Transistour. BD qui fera déborder le lac et contribuera à accélérer la scission entre gauchistes et rockers. Les rockers fonderont Radio Garage qui deviendra béton, les gauchistes créeront une autre radio dont Jean-Michel se souvient.
Pour éclairer tout ça, après cette scission, le côté politique de Transistour ont monté une radio qui s'appelait Alice FM, que j'ai écoutée. Forcément, parce que c'était nos ennemis, on les appelait les Kioulés, c'était les cris dans la ville, c'était Kioulés dès qu'on l'envoyait. Et il suffisait d'écouter, et le discours politique, il était vide, ce qu'il racontait. Inintéressant au possible, décalé, et puis au niveau de la programmation musicale, ça ne donnait pas envie d'écouter, quoi, vraiment.
Il y avait quand même une sacrée contradiction entre une radio qui donne, entre guillemets, la parole au peuple, et quand des gens sont arrivés et ont commencé à prendre la parole, ils n'étaient plus les...
C'était pas le bon peuple.
Voilà, c'était pas le bon peuple. On n'avait pas la culture politique.
Ce pas bon peuple, on était un certain nombre à le trouver vachement sympa quand même et à pencher plutôt vers eux que vers...
C'est l'illustration en province de ce qui s'est passé à d'autres échelles avec les anciens Mao qui se sont convertis au libéralisme. Voilà, on pensera à Serge Julie.
Complètement. Ils étaient tout à fait sur une logique comme Julie, quoi. Effectivement, c'est-à-dire... Et le clash, il s'est fait... Bon, enfin, donc, il y a eu, effectivement, des conflits, c'est-à-dire qu'il y a des tensions dans la radio. Et, en fait, le groupe historique s'est mis à refaire un autre projet, qui était un projet professionnel. Et, un soir, nuitamment, ils sont venus et ils ont piqué le matériel. Entre guillemets, ils ont dit qu'ils l'avaient protégé contre nous.
On n'a pas fait de chanson quand il y a eu le putsch, on a fait une radio. On a été plus efficace.
Il faut dire qu'ils avaient prévu leur petit truc en douce, en envoyant des lettres sur le projet de Radio Alice à certaines structures tourangelles, les studios, entre autres, machin. Mais le monde étant petit, il y a des gens qui sont tombés dessus et qui nous disent « Vous avez vu le projet de Radio Alice ?» Et c'est là que le poteau rose a été découvert, quoi.
Quand je parlais de plan de carrière, c'était ça. C'est-à-dire qu'on était une équipe, et dans l'équipe en question, il y a un petit noyau qui s'est mis purement et simplement à comploter, comme ça que ça s'appelle. Ils ont fait leur truc dans leur coin, ils avaient décidé de piquer le matos. Alors techniquement, ils ont fait avaliser ça en faisant la veille ou l'avant-veille, je ne sais plus, en convoquant une assemblée générale. Ils ont tripatouillé, ce qui fait qu'ils se sont votés eux-mêmes la majorité. Donc ils avaient tout pouvoir, tout. Ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux se sont retrouvés éjectés du droit de vote à l'Assemblée Générale. Et le lendemain, ils ont vidé le studio. Ils sont,
Non. Ils ont vidé le studio et ensuite, ils ont fait l'Assemblée Générale ensuite.
Oui.
Pour avaliser donc ce coup d'État. Ce qui s'est passé c'est que on s'est retrouvés donc tout le monde devant ce coup d'État, mais en fait, on ne se connaissait pas. C'est-à-dire que on n'avait aucune structure. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, Jean-Mi Filmal, je les connaissais, mais bon, on n'était pas proches du tout. Eux pensaient que j'étais plutôt avec le noyau historique. Et après le putsch, en fait, on s'est retrouvés, mais des gens différents qui ne se connaissaient pas. Et c'est à partir de cette différence, à partir de ces envies qui étaient différentes, qu'on a réussi à monter un concept béton qui était intéressant, parce que c'était pas un truc unique, quoi. C'était un regroupement de gens, bon, qu'on a tous été révoltés par cette façon de faire, et on s'est regroupés, et bon, on a dit, bah, de toute façon, oui, il faut remettre, quoi. Bon,
c'était le ciment, et puis c'était notre énergie de se faire tous virer comme ça, et puis victime d'un coup d'État, quoi. Donc on avait une vraie légitimité d'être ensemble et puis l'envie de faire quelque chose, quoi. On n'était pas là simplement à faire des beaux discours, quoi. Nous on avait envie d'inonder les ondes de la ville de rock'n'roll, quoi.
La légitimité, c'est tout ce qu'on avait, parce que faut bien voir que du jour au lendemain, donc on s'est retrouvé sans rien. On n'avait plus d'association, puisqu'on était officiellement plus rien. On n'avait plus de locaux, on n'avait plus de matériel, on n'avait pas d'autorisation et en plus on n'avait pas de pognon. Ça limite un peu les ambitions. Pour l'anecdote, Les grands anciens politisés étaient pas tous dans le même camp, puisque il a été ressorti pour l'occasion un numéro unique du fameux journal en question qui s'appelait Le Petit Rouge de Touraine, entièrement consacré à l'histoire de la fin.